Chapitre 17. La communauté chrétienne. Après cette conversation, Fabiola se retira dans son appartement et pendant la fin de la journée, son esprit fut tantôt calme et tantôt agité. Quand elle jetait un regard sur les hautes perspectives de la vie morale qui s'étendait maintenant devant son âme, elle sentait un calme inaccoutumé. Il lui semblait avoir découvert un grand phénomène dont l'intelligence la guidait dans une nouvelle et sublime région d'où elle pouvait se rire des erreurs et des folies de l'humanité. Mais quand elle songeait à la responsabilité que cette lumière lui imposait, à la surveillance qu'elle était obligée d'exercer sur elle-même, aux luttes intérieures, invisibles et sans récompenses extérieures qu'il faudrait livrer, et à la tristesse austère d'une vertu qui ne rencontrait pour la soutenir ni l'admiration, ni même la sympathie, Fabiola reculait devant la vie nouvelle qui lui apparaissait, et elle ne savait comment la traverser sans aide et sans appui, car elle n'en avait aucun à espérer des seules sources qui lui fussent connues. Ignorant les causes premières, elle voyait bien qu'elle ne possédait pas les moyens nécessaires pour mettre en pratique cette belle théorie qu'elle regardait comme une lampe brillante suspendue au milieu d'une salle vaste, déserte et nue, et n'éclairant que le vide. Quel était l'usage de tant de splendeur perdue ? Le lendemain, Fabiola comptait faire une visite qu'elle renouvelait chaque année chez Chromatius, préfet de la cité. Le lecteur se souvient qu'après sa conversion, que suivit sa démission, ce magistrat s'était retiré dans sa villa de Campanie avec les nombreux chrétiens convertis par Sébastien et le saint prêtre Polycarpe qui devaient terminer leur instruction. Fabiola ignorait ces circonstances, mais elle avait entendu de curieux rapports sur la vie de Chromatius. On disait qu'il avait un nombre de visiteurs inaccoutumés et que cependant il ne donnait pas de fête, qu'il avait affranchi tous ses esclaves, mais qu'un grand nombre d'entre eux avaient préféré rester avec lui. Cette société si nombreuse paraissait très heureuse, quoiqu'elle ne jouît d'aucun plaisir bruyant ou frivole. Tous ces détails stimulaient la curiosité de Fabiola et ajoutaient un attrait de plus à la visite accoutumée qu'elle rendait volontiers chaque année au meilleur ami de son enfance. Elle désirait voir de ses propres yeux ce qui lui semblait être un essai de la République de Platon, ce que nous appellerions la mise en pratique d'une utopie. Fabiola partit de bonne heure dans une légère voiture de campagne, traînée par de bons chevaux, et parcourut gaiement le chemin uni qui traversait l'heureuse Campanie. Une pluie d'automne avait abattu la poussière et ses gouttelettes brillaient comme autant de diamants liquides aux pampres de la vigne qui bordaient la route, semblables à des guirlandes rattachées d'arbre en arbre et formant des haies festonnées. Elle atteignit bientôt la gracieuse éminence, car on ne peut l'appeler une colline, couverte de buis, d'arbustes et de lauriers, entremêlés de cyprès pyramides, sur le sommet de laquelle brillaient les blanches murailles de la vaste villa. Depuis sa dernière visite, un changement qu'elle aperçut, sans pouvoir d'abord s'en rendre compte, s'était accompli dans la propriété. Quand elle eut dépassé la porte, elle remarqua le nombre de piédestaux et de niches restées vides, et la jeune patricienne pensa que la villa avait perdu l'ornementation qui servait à la caractériser. Les statues qui se dressaient naguère le long des haies toujours vertes de la villa et qui lui avaient fait donner son nom, aujourd'hui vide de sens, la villa des statues, ou aux statues, avaient disparu. Chromatius, qu'elle avait vu récemment encore, pris de la goutte, était à présent un vieillard d'une robuste santé. Il la reçut avec courtoisie et s'informa avec intérêt des nouvelles de son père, en lui demandant s'il était vrai qu'il dut partir prochainement pour l'Asie. À cette demande, Fabiola parut peinée et mortifiée, car son père ne lui avait pas fait part de ce projet. Chromatius lui dit qu'il espérait que c'était là un faux bruit et l'invita à faire une promenade dans ses jardins. Elle les trouva entretenus avec le même soin, remplis des plus belles fleurs, des plantes les plus rares. Là aussi, les anciennes statues avaient disparu. Enfin, ils atteignirent une grotte qu'arrosait une fontaine, ornée autrefois de nymphes et de naïades. À présent, tout paraissait sombre et nu. Fabiola ne put se contenir plus longtemps et, se tournant vers Chromatius, elle lui dit « Qu'avez-vous donc fait de vos statues, Chromatius ? Vous avez enlevé à votre belle villa son plus remarquable ornement. Qui a pu vous porter à cet acte que rien n'explique ?»« Ma chère enfant, répondit le bon vieillard en souriant, ne vous irritez pas. Quel service ces statues rendaient-elles ? » ?»« Si telle est votre opinion, d'autres peuvent ne pas la partager. Mais dites-moi, qu'en avez-vous fait ?»« Pour vous dire la vérité, je les ai livrées au marteau. » »« Quoi ? Sans me prévenir ? Vous savez bien qu'il y en avait plusieurs que j'aurais été heureuse d'acquérir. » Chromatius riait de tout son cœur et reprit avec le ton de douce familiarité que ses anciennes relations avec Fabiola, qu'il avait vue enfant, l'autorisaient à prendre. « Ma chère enfant, votre jeune imagination court trop vite pour que ma pauvre vieille langue puisse la suivre en paix. Je ne veux pas parler du marteau de l'huissier-priseur ou de l'homme de loi, mais du marteau du forgeron. Les dieux et les déesses ont été toutes brisées, pulvérisées. Si vous voulez vous contenter de quelques jambes séparées du tronc ou de quelques mains mutilées, je pourrais peut-être vous satisfaire, mais je ne saurais vous promettre une figure avec un nez ou un crâne sans fracture. » Fabiola paraissait profondément étonnée. « Vraiment, s'écria-t-elle, vous avez agi ainsi comme un barbare, vous, mon vieil ami, vous, magistrat renommé par votre sagesse ? Quelle ombre de raison pouvez-vous alléguer pour justifier cet acte insensé ? C'est qu'en devenant vieux, je suis devenu plus sage et que j'arrive à cette conclusion. Le seigneur Jupiter et la dame Junon ne sont pas plus divins que vous et moi. Aussi, je me suis promptement débarrassé d'eux. » Oui, cela est très bien. Moi qui ne suis ni vieille ni sage, j'ai depuis longtemps la même opinion. Mais pourquoi ne pas garder vos statues comme de simples objets d'art ? Parce qu'ils ont été placés sur ces piédestaux, non à ce titre, mais comme des divinités. Ils étaient là comme des imposteurs introduits sous de faux prétextes. N'expulseriez-vous pas de votre maison, comme un intrus, un buste ou une statue trouvée au milieu de celle de vos ancêtres et appartenant à une toute autre famille ? C'est ce que j'ai fait à l'égard de ces prétendants qui aspiraient à entretenir avec moi des relations plus hautes et plus augustes, fondées aussi sur un mensonge. Je n'ai pas voulu, en les vendant, courir le risque de les voir continuer la même imposture. Alors, mon vieil et rigide ami, n'est-ce pas une imposture de faire encore appeler votre villa ad statuas quand elle ne renferme plus une seule statue ? Certainement, reprit Chromatius, que l'esprit vif de Fabiola amusait. Aussi, vous voyez que j'ai planté des palmiers tout autour de la maison. Aussitôt que leurs têtes domineront les ifs, la villa prendra le nom de Villa des Palmes. Un joli nom, reprit Fabiola, qui ne se pensait pas au sens plus élevé que ce mot contenait. Elle ne pouvait deviner que la villa était devenue quelque chose d'analogue à ces gymnases où les gladiateurs et les lutteurs se préparaient à la lice et que de généreux athlètes s'y formaient pour les grands combats de la foi, le martyr et la mort. Ceux qui y entraient et qui en sortaient pouvaient se dire sur le chemin du champ de bataille où l'on conquiert les palmes pour les déposer devant le trône du dieu juge de la victoire remportée sur le monde. Encore un peu de temps et les palmes nombreuses allaient être cueillies au sein de cette retraite du christianisme encore à son matin. Mais il nous faut donner l'histoire de la destruction des statues de Chromatius qui forme un épisode particulier dans les actes de Saint-Sébastien. Quand Nicostrate apprit à Chromatius, préfet de Rome, et la guérison de Tranquillinus atteint de la goutte et la délivrance des prisonniers, Chromatius, après s'être informé de la vérité du fait, envoya chercher Sébastien et lui proposa de devenir chrétien, sans voir autre chose dans le baptême qu'un moyen d'être délivré de la goutte qui le faisait souffrir. Cette proposition n'était pas acceptable, un autre moyen fut mis en avant, et il devait donner à Chromatius une preuve personnelle de la vérité et de la puissance du christianisme sans l'obliger à recevoir le baptême sacré sans avoir les dispositions requises. Chromatius était célèbre pour le nombre immense d'idoles qu'il possédait. Sébastien lui assura que s'il voulait consentir à les mettre en pièces, il serait guéri. C'était une dure condition, mais le préfet l'accepta. Son fils Tiburtius était furieux. Il déclara que si le résultat promis ne suivait pas cette destruction, il jetterait Sébastien et Polycarpe dans une fournaise ardente. Et cette menace n'était pas difficile à exécuter pour le fils du préfet. Dans un jour, 200 statues païennes furent brisées, aussi bien les statues de la maison de Rome que celles de la villa de Campanie. Les images étaient détruites et Chromatius souffrait toujours. On envoya chercher Sébastien, qui fut reçu avec fureur. Il resta calme et impassible. « Je suis sûr, dit-il, que tout n'a pas été détruit. Quelque chose a été soustrait à l'exécution. » Il avait raison. De petits objets, qu'on regardait comme des œuvres d'art plutôt que des simulacres religieux, avaient été cachés, ainsi que le trésor d'Achan. On les apporta, ils furent brisés, et Chromatius fut immédiatement guéri. Il se convertit, et avec lui son fils Tibertius, qui devint un fervent chrétien. Il mourut martyr et donna son nom glorieux à une catacombe. Il avait demandé de rester à Rome pour encourager et assister ses frères dans la foi pendant la persécution qu'il voyait venir. Noble emploi que ses rapports avec le palais, son courage éprouvé et son activité lui rendaient plus facile. Il devint naturellement le grand ami, le compagnon le plus intime de Sébastien et de Pancratius. Il est temps de mettre un terme à cette petite digression pour revenir à la conversation de Chromatius et de Fabiola qui continua ainsi. « Savez-vous, Chromatius, mais d'abord asseyons-nous à ce bel endroit qu'ornait une magnifique statue de Bacchus. Savez-vous que les bruits les plus étranges circulent dans les environs sur votre manière de vivre ici ?»« Vraiment, cher enfant, et que dit-on ? » On dit que vous vivez en nombreuses sociétés avec des personnes que l'on ne connaît pas, que vous ne receviez pas, que vous demeurez ici en menant une vie qui rappelle la République idéale de Platon. Voilà qui est très flatteur, interrompit Chromatius en s'inclinant avec un sourire. Ce n'est pas tout, continua Fabiola. On dit que vous dormez à peine, que vous ne prenez aucun plaisir et que votre abstinence est si grande que vous vous exposez à mourir de faim. « J'espère qu'on nous rend justice d'ajouter que nous payons nos dettes, » reprit Chromatius, « et qu'on ne nous accuse pas d'avoir un long mémoire chez le boucher ou chez l'épicier. »« Oh non !» dit Fabiola en riant. « C'est bien bon de la part du monde, » reprit le vieillard d'un ton de bonne humeur. « Le public prend un grand intérêt à ce qui nous concerne. Mais n'est-il pas étonnant, ma chère enfant, que lorsque ma villa était, comme tant d'autres, le rendez-vous de gens qui professaient le culte de la vie large et commode, qui ne craignaient pas les conversations légères, les bons repas et les bons vins, les plus ardentes saillies et les folies bruyantes de la jeunesse, importunes pour le voisinage, je vous demande pardon, ma jeune dame, de faire devant vous allusion à ces choses, n'est-il pas étonnant que, tant que mes amis et moi n'avons été ni sages ni sans reproche, personne n'ait fait attention à nous? Au contraire, si quelques personnes se retirent à la campagne pour mener une vie tranquille, frugale et occupée, s'éloignant des affaires publiques, étrangers à la politique et à la société, la curiosité du vulgaire s'éveille et veut savoir tout ce qui les concerne. Les hommes d'État du troisième ordre éprouvent une violente démangeaison de se mêler de la conduite de ces hommes inoffensifs, et les rumeurs les plus fausses, les soupçons les plus odieux se répandent et sur leur genre de vie, et sur les motifs qui les ont déterminés à l'adopter. N'est-ce pas un étrange phénomène ? Oui, en vérité. Et comment l'expliquez-vous ? Par la tendance de certains petits esprits disposés à être jaloux des aspirations plus hautes que les leurs et qui critiquent aveuglément les sentiments qui dépassent le niveau du but auquel ils visent. Quelle est donc réellement la vie que vous menez, mon digne ami ? Nous passons notre temps à cultiver nos facultés les plus élevées. Nous nous levons de très grand matin, j'ose à peine vous dire à quelle heure, et nous consacrons plusieurs heures à des devoirs religieux. Puis nous avons des occupations variées. Les uns lisent, d'autres écrivent ou travaillent dans les jardins, et je vous assure qu'il n'y a pas d'ouvriers à la tâche qui mènent plus vaillamment leur besogne que ces laboureurs volontaires. Nous nous réunissons à des heures marquées, et nous chantons des hymnes magnifiques où respire la vertu et la pureté. Nous lisons des livres instructifs et nous recevons des leçons orales sorties de bouches éloquentes. Notre nourriture est très frugale, nous vivons seulement de légumes, mais j'ai trouvé que la gaieté n'est pas incompatible avec les lentilles et que la bonne chair ne donne pas le bonheur. Vous devenez de vrais pythagoriciens. Je croyais que cela avait passé de mode. mais ce doit être un système bien économique, remarqua malicieusement Fabiola. Ah ah, vous plaisantez, jeune fille, répondit le juge, car vous ne pouvez penser que ce soit là une simple mesure d'économie. En tout cas, cherchez une autre explication, car ce ne sera pas, et nous venons de prendre une résolution extrême. Quelle mesure ? Demanda la jeune fille. Vous allez en juger. Nous sommes résolus à ne plus avoir de malheureux dans notre voisinage. Cet hiver, nous habillerons les pauvres, nous nourrirons les affamés, nous soignerons les malades. Toutes nos économies tendent à ce but. C'est une idée très généreuse, quoique très nouvelle dans notre temps. Sans nul doute, vous serez en butte à bien des railleries et l'on vous jettera la pierre de tous les côtés. Si cela était possible, on dirait plus de mal de vous qu'on en dit à présent, mais cela ne se peut pas. Ne vous offensez pas si je vous le dis, mais on est allé jusqu'à prétendre que vous étiez peut-être bien des chrétiens. Vous comprenez avec quelle indignation j'ai repoussé cette insinuation. Chromatius sourit et reprit : Pourquoi cette indignation, ma chère enfant ? Parce que je vous connais trop bien, vous, Tiburtius, Nicostratus et sa femme Zoé, notre chère muette, pour admettre que vous avez adopté le mélange de faussetés et de sottises qu'on désigne sous ce nom. Permettez-moi une question. Avez-vous jamais pris la peine d'ouvrir un livre chrétien afin de vous rendre compte par vous-même de ce qu'ordonne et de ce que défend cette religion que vous méprisez ? Oh non, en vérité, je ne voudrais pas perdre ainsi mon temps. Je n'aurai pas la patience d'achever cette lecture. Je méprise trop les chrétiens comme des ennemis des progrès intellectuels, des citoyens suspects, crédules à l'excès, qui tolèrent des œuvres abominables pour risquer de faire une plus intime connaissance avec eux. C'est bien ce que je pensais d'abord à leur sujet, chère Fabiola, mais mon jugement a bien changé depuis quelque temps. Quelle étrange chose ! En qualité de préfet de la ville, vous devez pourtant avoir eu à punir quelques-uns de ces misérables à cause de leur opiniâtre désobéissance à la loi. Un nuage passa alors sur la joyeuse physionomie du vieillard et une larme brilla dans ses yeux. Il pensait à saint Paul qui, lui aussi, avait d'abord persécuté l'Église de Dieu. Fabiola remarqua ce changement. Elle en fut peinée. De sa manière la plus affectueuse, elle lui dit « J'ai parlé sans réflexion et je crains d'avoir éveillé des souvenirs douloureux pour votre excellent cœur. Pardonnez-moi, cher Chromatius, et parlons d'autre chose. Un des motifs de ma visite était de vous demander si vous connaissiez quelqu'un qui dut partir de suite pour Rome. J'ai entendu parler de plusieurs côtés du voyage projeté de mon père et je désire vivement lui écrire, craignant qu'il ne recommence ce qu'il a déjà fait en d'autres circonstances, partir sans prendre congé de moi pour m'éviter le chagrin des adieux. Il y a justement un jeune homme qui part demain matin pour Rome. Entrez dans la bibliothèque pour écrire votre lettre, vous y trouverez probablement le messager. » Ils retournèrent à la maison et entrèrent dans une pièce du rez-de-chaussée remplie de casiers à livres. Un jeune homme, assis près d'une table, copiait un gros volume. Voyant entrer une étrangère, il ferma son livre et le mit de côté. « Torquatus, dit Chromatius en s'adressant à lui, Madame désire envoyer une lettre à son père à Rome. Ce sera pour moi un grand plaisir d'être utile à la noble Fabiola ou à son illustre père. « Quoi, vous les connaissez ? » demanda le juge tout surpris. « Tout jeune encore, j'eus l'honneur d'être employé en Asie, ainsi que mon père l'avait été longtemps avant moi, par le noble Fabius. Ma mauvaise santé m'obligea de quitter son service. » On voyait sur la table de la bibliothèque des feuilles de beau vellum, coupées évidemment pour la transcription de quelques livres. Le bon vieillard plaça une de ses feuilles devant Fabiola avec de l'encre et un roseau, et la jeune fille écrivit quelques lignes affectueuses à son père, puis plia le message, l'enveloppa d'un fil qu'elle scella de cire, sur laquelle elle imprima son cachet, qu'elle portait toujours dans un sac richement brodé. Désireuse de récompenser le messager, sans savoir ce qu'elle pourrait faire de mieux pour cela, elle prit une seconde feuille de vélin, y inscrivit le nom et l'adresse de Torquatus et plaça le tout dans le haut de sa tunique. Après avoir pris quelques rafraîchissements, elle remonta dans sa voiture et, ayant dit un affectueux adieu à Chromatius, elle partit. Il y avait quelque chose de touchant et de paternel dans le regard qu'arrêta sur elle le vieillard, comme s'il prévoyait qu'il ne reverrait plus sa jeune amie. Cette pensée avait aussi frappé Fabiola. Mais c'était un sentiment bien différent qui avait ému l'âme de Chromatius. Fabiola resterait-elle toujours ainsi? La laisserait-il périr dans cette ignorance invétérée? Ce cœur généreux, cette noble intelligence, était-il destiné à ramper dans les boues infectes du paganisme, quand chacun de ses sentiments et chacune de ses pensées semblait offrir à la vérité les éléments les plus délicats, les fils les plus solides, pour former un tissu digne des regards de Dieu? Non, cela ne pouvait pas être. Et cependant, mille motifs retenaient encore la confidence du vieillard sur ses lèvres, car il pensait que cette confidence, faite en ce moment, éloignerait fatalement Fabiola de la foi chrétienne. « Adieu, mon enfant !» lui cria-t-il. « Puissiez-vous être mille fois béni, dans un sens que vous ne connaissez pas encore ?» Il détourna la tête en abandonnant la main que Fabiola avait laissée entre les siennes et se retira rapidement. Fabiola fut émue du ton mystérieux avec lequel il avait prononcé ses affectueuses paroles. Mais son émotion fit place à un profond étonnement quand, avant d'atteindre la porte, elle vit Torquatus arrêter sa voiture. Fabiola fut alors péniblement impressionnée par le contraste qui existait entre la manière libre et presque familière, quoique respectueuse, du jeune homme et la douce gravité mêlée de gaieté de l'ancien préfet. « Pardonnez-moi de vous retarder, madame, dit-il, mais désirez-vous que votre lettre arrive promptement ?»« Certes, je désire très vivement qu'elle soit remise à mon père le plus tôt possible. »« Je crains alors de ne pas vous bien servir. Je suis obligé de voyager à pied, à moins que je ne trouve une occasion peu coûteuse sur mon chemin, et je serai quelques jours en route. » Fabiola dit en hésitant. « Puis-je prendre la liberté de mettre à votre disposition les moyens de faire un voyage plus rapide ?»« Oui, madame, répondit vivement Torquatus, si par ce moyen je puis mieux servir votre noble maison. » Fabiola lui tendit une bourse assez remplie, non seulement pour subvenir aux frais de son voyage, mais pour le récompenser largement. Il la reçut avec joie et disparut par une allée latérale. Il y avait dans ses manières quelque chose qui impressionnait désagréablement Fabiola. Elle pensa que cet homme n'était pas digne de faire partie de la société de son vieil et digne ami. Si Chromatius avait été témoin de cet arrangement, il n'eût pu s'empêcher de songer à Judas en voyant l'avidité avec laquelle Torquatus saisissait la bourse. Fabiola n'était pas fâchée cependant de s'être déchargée, moyennant une somme d'argent, de toute obligation envers cet homme. Elle tirait donc son mémorandum pour le déchirer comme désormais inutile, quand elle s'aperçut que de l'autre côté du vélin, on avait écrit quelque chose. Le copiste, qui avait mis sa feuille de côté en apercevant la jeune fille, avait évidemment continué sur cette page la copie commencée. Quelques sentences seulement y étaient inscrites. Fabiola se mit à les lire, et pour la première fois, elle vit les mots suivants tirés d'un livre qui lui était inconnu. Je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Soyez de dignes enfants de votre Père qui est dans le ciel. Il envoie son soleil sur les bons et sur les méchants et fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Qu'on se figure un paysan indien qui ramasse dans le lit d'un torrent un caillou blanc, rude, transparent et informe à l'extérieur, mais d'où jaillissent des étincelles. Il ne peut savoir qu'il a trouvé un diamant splendide ou une pierre sans valeur, un joyau digne d'être placé sur la couronne d'un roi ou un caillou que le pied du mendiant foule en passant. Mettra-t-il fin à son embarras en rejetant la pierre brillante ou bien la portera-t-il au lapidaire pour demander sa valeur en risquant peut-être de se faire railler? Tels étaient les sentiments divers qui agitaient l'âme de Fabiola en revenant à sa villa. « De qui peuvent être ces sentences » pensait-elle. « Elles ne sauraient être attribuées à des philosophes grecs ou romains. Elles sont ou remplies de fausseté ou pleines de vérité. Elles émanent de la morale la plus sublime ou des sentiments les plus dégradés. Est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent ces doctrines ou est-ce simplement un brillant paradoxe ? Je ne veux pas me tourmenter davantage à ce sujet, ou plutôt j'interrogerai Syra sur ses sentences, qui me paraissent très belles, mais très impraticables théories. Non, il vaut mieux que je me taise. Syra me domine par ses vues sublimes, inaccessibles pour moi, et qui lui semblent aisées. Mon esprit a besoin de repos. Le plus court moyen d'arriver à ce repos est d'oublier la cause de mon trouble et de ne plus songer à ces maux importuns. Qu'ils s'envolent au gré du vent ou qu'ils aillent tourmenter une personne qui les trouvera peut-être sur son chemin. Hola, Formio ! Arrêtez la voiture et ramassez cette feuille de parchemin que j'ai laissée tomber. Le cocher obéit, quoiqu'il pensât que la feuille avait été volontairement jetée. Fabiola la replaça sur sa poitrine comme un sceau mis sur son cœur, qui, jusqu'à la maison, demeura calme et silencieux.